6h04, lundi 20 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98,5. Jour de vote, bien sûr. Et c'est une, je dirais, en termes météo, là, la journée parfaite. 24 degrés, c'est le maximum qui est prévu. L'humidex autour de 26. Et on sait que plus il fait beau, normalement, plus les gens vont voter. Remarquez que cette année, avec les règles sanitaires et les vérifications, ça peut prendre un peu de temps. Il y a eu des longueurs pour le vote par anticipation. Ça varie d'un endroit à l'autre, là, mais il faut prévoir quand même un peu plus de temps qu'à l'habitude pour aller voter aujourd'hui. Donc, c'est 24 degrés, c'est du soleil. Ciel dégagé pour la nuit prochaine autour de 14 degrés comme minimum. Demain, mardi, encore là, du soleil. Plus nuageux en après-midi, maximum autour de 25 degrés. Et à partir de mercredi, le temps va se couvrir. Et on aura possiblement un peu de pluie, certainement de la pluie, des averses pour jeudi. Et également, vendredi, on prévoit de la pluie autour de 23 degrés. Donc, des températures élevées pour la saison, alors que normalement, ça devrait être autour de 18 degrés, puis on a du 24-25 degrés aujourd'hui et demain. Juste un mot, vous avez entendu Bénédicte décrire l'accident qui s'est produit hier. C'est un coin que je connais très bien. J'ai habité dans le secteur pendant des années. Et là, tu te mets un peu dans le contexte, c'est-à-dire 10h30, le dimanche matin, il fait un temps superbe. Tu es à l'arrêt. Il y a un feu. La rivière Richelieu est en face. Tu es avec tes deux ados dans la voiture. Et arrive, visiblement, à haute vitesse, de nulle part, quelqu'un qui fonce au volant d'un pick-up et tue trois personnes. Il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé au début, mais tout indique pour l'instant que la police retient l'hypothèse du malaise. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est l'effet, c'est l'impact sur les autres, et pas simplement sur la famille immédiate, ça va de soi, mais sur des proches, des gens qui travaillent à l'hôpital avec elle, des gens qui sont des amis. Et sur les réseaux sociaux depuis hier, vous comprendrez que les témoignages et les condoléances s'expriment, puis on peut comprendre pourquoi. Parlons des élections maintenant, parce que c'est jour de vote, je le disais, et c'est un long processus électoral. On est un peu habitué à se dire, bon, ben vers 10 heures, on devrait savoir, ou 11 heures, dans le cas d'une fédérale, qui va former le prochain gouvernement. C'est loin d'être sûr. D'une part, parce qu'on s'attend à un vote serré. Alors, comme disait Jean-Marc Léger, je pense que c'est la semaine dernière, petite majorité ou vraiment un gouvernement minoritaire, conservateur, libéral. Et il y a beaucoup d'enjeux à surveiller. Le taux de participation, des luttes serrées dans plusieurs comtés. On peut penser à la Gaspésie, on peut penser à Hochelaga. Maxime Bernier va faire quoi en Beauce? C'est sûr qu'il y a déjà quand même plus que la moyenne nationale dans son comté. Certains pensent qu'il va aller chercher 30 % des voix. Est-ce que ça va être suffisant? Et tout le processus du vote postal également qu'il faut comptabiliser. Donc, peut-être pas avant demain, puis il y a certains qui spéculent que ça pourrait aller à mercredi, le résultat final. Donc, on va surveiller ça avec énormément d'intérêt. Une campagne électorale que les gens ne voulaient pas nécessairement, mais que M. Trudeau a imposée. Campagne rapide, 36 jours de campagne et avec des débats. Puis, vous savez, la grande question, c'est toujours pareil après une élection, il y a des chefs qui tombent. Alors, M. Trudeau joue gros avec cette élection. Maxime Bernier, est-ce qu'il va vraiment faire le plein des votes des anti-vax à travers le Canada? Ça va être intéressant à suivre. Et cette espèce de courant de sympathie pour Jack Meet Singh, est-ce que ça va se traduire par des votes? Je regardais les dernières projections. On pense que le Bloc va aller chercher peut-être 35-36 comtés. M. Singh pourrait faire mieux, ce qui ferait que le gouvernement minoritaire, bleu ou rouge, serait encore plus faible et encore plus fragile. Bon, on va parler maintenant de politique au Québec parce que, bon, on a vu en fin de semaine le premier ministre Legault qui est allé rencontrer les jeunes de la CAQ pour livrer un message extrêmement nationaliste sur l'importance pour le Québec de défendre ses droits, ses juridictions, ses valeurs. Quand on parle de valeurs québécoises, on pourrait faire un papier de débat là-dessus. On comprend ce qu'il veut dire, là, au niveau de la laïcité. Et je sais que ça a fait beaucoup jaser en fin de semaine. que cet événement des jeunes caquets se passe dans une ancienne église, pardon, de Limoilou à Québec. T'sais, on a passé les derniers jours à débattre sur Maurice Duplessis en associant le premier ministre actuel par son attitude et ses prises de position au chef de l'Union nationale. Puis on se souvient tous de la proximité de l'Église et de l'Union nationale. Donc, en termes d'image, c'était assez fort. Mais soyons quand même honnêtes pour dire que c'est une Église qui n'est plus une Église, comme beaucoup d'Églises au Québec. Et en termes de valeur architecturale, c'est quand même quelque chose. Et pour tenir une activité, garder la distance, l'aération, c'est quand même un facteur à considérer. Alors, tout ça pour dire que M. Legault, encore une fois, à 24 heures du vote, là, est allé comme prendre position en disant aux Québécois, ben, il y a des partis qui nuisent au Québec. Il parle évidemment des libéraux, du NPD et du Parti vert. Il ne vous dit pas pour qui voter, mais il vous dit surtout pour qui ne pas voter, selon lui. Et il dit, on n'a pas besoin de se faire dire quoi faire par le gouvernement fédéral. Nous, on a besoin d'avoir les coups des franges. Pas plus de fonctionnaires, mais des infirmières, pour reprendre, disons, sa phrase choc. Et c'était en même temps l'occasion pour François Legault d'ouvrir la porte pour la prochaine année au Québec, qui va être une année électorale. On a vu le ministre de la Santé, Christian Dubé, annoncer projet de loi cet automne, pas pour faire des réformes de structure, mais pour rendre le système de santé plus efficace, pour être capable de régler les problèmes de main-d'œuvre, les problèmes de financement. On a vu les études sur les ratios dans les hôpitaux, dans les centres de soins de longue durée. Ça n'a aucun sens. Et c'est la qualité du service qui est directement touchée. Alors, donc, M. Legault prend position assez clairement, puis il insiste là-dessus, il tape sur le clou, et il va être quand même tributaire aussi du résultat de l'élection. Puis ça arrive alors qu'à Québec, on se prépare à l'ouverture des travaux de la commission parlementaire sur la réforme de la loi 101. Et je voyais des commentaires qui sont parfois assez hystériques, notamment espèce d'intervenante communautaire qui, la semaine dernière, disait qu'elle était convaincue que si quelqu'un qui appelle le 911 qui parle anglais, on va lui raccrocher au nez puis qu'il n'y aura pas de service. Bien sûr que non, il va y avoir des services. Entre France Goldwater qui compare la situation au Québec à la Gestapo. Si vous avez connu le débat sur la loi 101 originale, on n'est pas surpris. Les allusions aux pires régimes dictatoriaux étaient monnaie courante. Et j'inviterai le ministre Jolin Barrette à revoir peut-être des points de presse de l'époque du ministre responsable Camille Lorrain. Je me souviens, entre autres, ça avait été présenté à la télévision, en anglais. Là, je pense que c'était CBC qui avait présenté ça. Camille Lorrain était allé rencontrer la communauté anglophone, une foule hostile, sur cette loi qui faisait du français la langue officielle. Robert Bourassa l'avait instauré, mais évidemment, là, c'était beaucoup plus musclé. Et il avait affronté cette foule, c'est un psychiatre, le docteur Lorrain, avec un calme. Et c'est sûr que Jolin Barrette va entendre tous les extrémistes lancer des comparaisons, des allusions, des craintes, des peurs. Et la dernière chose qu'il doit faire, je pense humblement, c'est d'embarquer dans cette folie et cet engrenage du vocabulaire. Et pour moi, Camille Lorrain, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il a défendu, ça demeure un modèle dans les cas de projets de loi controversés. Donc ça commence demain. Et ça nous amène à parler de la situation dans les hôpitaux au Québec. Je dois vous dire qu'on a téléphoné, je pense, dans à peu près tous les 6, et si juste pour parler à une ou un PDG, parce que la semaine est déterminante, là. Je rappelle que le 15 octobre, c'est la date butoir. Puis là, on spécule sur le nombre d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires qui vont quitter parce qu'ils refusent d'être vaccinés. Déjà, on manque de monde, on va en manquer plus. Tous ces PDG ont le mandat de trouver une solution. Comment va-t-on faire pour s'assurer, un, de stopper les départs, puis deux, de ramener dans le réseau des gens? Et le plan doit être présenté cette semaine. On comprend qu'il va y avoir des primes, on comprend aussi qu'il va y avoir des avantages. des gens qui sont à la retraite. J'ai reçu plein de courriels en fin de semaine d'employés, d'infirmières qui, je dirais, partagent leur situation. Et l'Hôpital général de Montréal, je vais donner un seul exemple, là, où il y a un épuisement. Mais vraiment un épuisement, là. Puis c'est pas une chaîne de lettres de gens qui sont première ligne puis qui n'en peuvent plus. L'Hôpital anglophone. Sainte-Terre, on va aller se promener de ce côté-là ce matin. Inquiétude des citoyens. Les gens à Sainte-Terre nous disent « ça se gère bien, mais il y a des problèmes à Val-d'Or, donc on va peut-être déplacer du personnel. » Il y a beaucoup d'inquiétudes. Ça va être très important que le message soit clair pour qu'on soit en mesure de gérer. Je vais parler aussi avec le docteur Boucher, Gilbert Boucher, des médecins d'urgence, avec la fréquentation, parce que là, il y a évidemment COVID, mais il y a d'autres patients qui se promènent. Puis je répète, là, l'accès à un médecin la fin de semaine, c'est le parcours du combattant. Il y a des GMF qui sont supposés être ouverts puis offrir du service. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. On me donnait des exemples la semaine passée où ça devait être ouvert jusqu'à 20 heures, puis le médecin partait à 4 heures, supposément qu'il devait aller à l'hôpital. Donc, c'était à découvert. Et malheureusement, ça arrive pas mal plus souvent qu'on pense. Quant à la vaccination au Québec, c'est important de le dire, là. Regardez le dernier tableau. 88 % des gens pour qui le vaccin est disponible ont reçu une première dose. Et les deux doses administrées, c'est 82 %. Tu sais, on met beaucoup en évidence les antivax, mais 82 % en termes de taux de vaccination, c'est spectaculaire. Chez les 18-40 ans, on est quand même en zone plus molle. 71 pour les 18-29 ans, puis 74 pour les 39 ans. Et pour ceux qui doutent encore, quand vous regardez les gens hospitalisés, puis oui, il y a des gens doublement vaccinés qui sont hospitalisés, mais les cas aux soins intensifs, c'est clair. Hier, tu avais 16 cas, ou peut-être samedi, là, 16 cas, c'est des gens qui n'avaient pas été vaccinés ou qui avaient eu strictement là, une première dose. Autrement dit, les cas les plus lourds se retrouvent parmi les gens qui sont non vaccinés, ce qui vient démontrer l'efficacité du vaccin. Puis c'est, je pense que c'est assez clair, à moins de s'appuyer sur des recherches bidons puis des thèses de complot puis de conspiration que je sais qu'il y en a beaucoup partagent puis qu'ils n'arrêtent pas de m'envoyer. Mais disons que les faits sont quand même assez clairs. Très bien, juste pour compléter le volet COVID ce matin, je regardais aussi la situation aux États-Unis. Le docteur Fauci n'arrête pas de dire « Soyons patients pour la dose supplémentaire, la fameuse troisième dose. OK pour les gens de 65 ans et plus, puis OK pour les gens qui sont les plus vulnérables. Mais sinon, il faut garder évidemment en tête l'importance d'avoir des doses pour la planète et pas juste pour nos besoins personnels si on veut venir à bout jusqu'à un certain point d'avoir ce contrôle sur la pandémie. Puis quand vous regardez la situation aux États-Unis, Mississippi, Alabama, Floride, donc des États du Sud, où c'est absolument incroyable. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, regardez la Floride, il y a eu la levée des mesures sanitaires, puis des rassemblements. » Bien, aujourd'hui, tu te rends compte que le prix est assez élevé. Par contre, une bonne nouvelle, elle nous arrive de Madrid, où on commence à, disons, donner encore plus de liberté aux citoyens. Alors, d'abord, vous dire que dans le cas de l'Espagne, le taux de vaccination est quand même élevé, mais quand même moins élevé qu'au Québec. Alors, on a actuellement le niveau de contamination, puis en termes de cas, là, la situation la meilleure depuis un an. Donc, restaurants et bars à Madrid vont pouvoir ouvrir plus longtemps. Également, pour ce qui est des centres commerciaux, des cinémas, des salles de spectacle, il n'y aura plus de notion de capacité limitée. On va ouvrir. Dans certains cas, pour ce qui est des restaurants à l'intérieur, ce sera 75 % dans les bars, là, par exemple, de la capacité permise, mais beaucoup plus de liberté parce que la vaccination donne des résultats. Puis je rappelle, c'est moins qu'au Québec. Et il y a toute la gestion des écoles. Je sais que dans certains pays, on commence à vacciner les enfants pour essayer de garder les écoles ouvertes. Plusieurs vont vous dire « attendons un peu, partons pas en peur », mais ça risque de venir. Et puis juste pour compléter là-dessus, Il y a Patrick Lagacé, mon collègue, qui publie ce matin ce que je vous ai dit la semaine passée à propos du docteur Richard Marchand. Alors que les complotistes s'amusent à sortir une vieille entrevue puis à essayer de faire croire que c'est récent. Ben oui, il est doublement vacciné, je le répète, avec du AstraZeneca et il haït ça à être manipulé par des gens. Donc on voit le sérieux, la rigueur de ces complotistes qui ramassent ça. Puis la pauvre Anne Cazabonne, l'actrice qui est allée récupérer ça, puis OK, elle a le droit à ses opinions, mais disons qu'elle s'est abreuvée à une source tout croche. Puis vous lirez ça ce matin. Dans les autres nouvelles, il y a Nathalie Normandeau qui publie son livre « Debout devant l'injustice ». On va regarder ça avec elle de plus près ce matin. Mais elle raconte toutes les étapes, donc, de l'arrestation, l'attitude des policiers, interrogatoire et surtout, les méandres des procédures. Elle répète ce qu'elle a dit depuis le début. J'aurais voulu un procès, j'aurais voulu être acquitté. Rappelons qu'il y a des chefs d'accusation qui sont tombés en cours de route. Mais qu'à un moment donné, après tant d'années de procédures où il ne se passe rien, ben, tu invoques l'arrêt Jordan. C'est pas ça que tu souhaites, mais il te reste quoi? Mais ce qu'il faut retenir, c'est le rôle. Et depuis le début que je vous parle de ça, non seulement dans le cas de Nathalie Normandeau, mais dans plusieurs cas, de Robert Lafrenière. Robert Lafrenière a fait arrêter Nathalie Normandeau et les autres le jour du budget. Robert Lafrenière a démissionné le jour de l'élection. On va faire 4 ans l'an prochain, là. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Est-ce que c'était une façon pour lui de sécuriser l'arrestation de Nathalie Normandeau, son renouvellement de mandat, qui était en cause, là? Les libéraux s'apprêtaient à faire un changement. Et c'était comme pour dire au gouvernement, « Regardez ce que je peux faire si je pars après vous. » Et elle rapporte dans le livre des commentaires de parlementaires sur la peur qu'ils avaient d'être piégés par l'UPAC. On connaît la suite avec Guy Ouellet. Donc, le livre va sortir mercredi, mais on va parler avec Nathalie un peu plus tard ce matin. Aussi, ça, on le savait, pénurie de conteneurs qui nuisent aux exportations agricoles. C'est dans le Devoir. Des conteneurs qui quittent Montréal vides parce que le marché est plus fort en Asie, puis les prix sont plus élevés. Ce qui fait donc, pour les producteurs, puis on cite Olimel, qui exporte environ 15 000 conteneurs par année. C'est une situation extrêmement difficile. Puis en terminant, je vais vous parler aussi plus tard dans l'émission, l'histoire de cette jeune fille complètement bizarre. Gabrielle Petitot, disparue depuis le 11 septembre, raconte l'histoire. Elle et son copain décident de partir avec un Ford transformé en caravane et ils parcourent les grands espaces. On a retrouvé hier, elle était disparue officiellement depuis le 11 septembre, on a retrouvé le corps d'une jeune femme, on pense que c'est elle, dans le Wyoming. Son chum est revenu du périple, mais pas elle. Il n'a pas trop collaboré avec la police. Et aujourd'hui, il est disparu. Elle, en particulier, était très active sur Instagram et documentait ce voyage d'amoureux à travers les grands espaces américains. Il y aurait eu un cas où la police en Utah a dû intervenir. Il semble qu'elle était en crise parce qu'elle avait peur d'être abandonnée. Puis les policiers avaient dit aux deux de se calmer puis de prendre du temps à part. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les circonstances de sa mort? Pourquoi est-ce qu'il est revenu seul? Pourquoi est-ce qu'il ne collaborait pas? Et surtout, qu'est-il devenu? La famille pense qu'il est allé se cacher. D'autres pensent qu'il s'est peut-être enlevé la vie. 6h24 minutes. 25 secteurs de Terrebonne.